Le meilleur de l'actualité, c'est dans Club de la Presse, votre émission. Merci de vous câbler sur la fréquence de Canal FM. Michel Tomega à la commande technique. Grâce à Jérôme Akucha, vous nous suivez en ligne partout dans le monde via nos plateformes Facebook, YouTube et canalfm.com. On nous reçoit également sur Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassar, Sama FM à Niamtougou et Radio Courtoisie à Dapan. Ibn Radio et Radio Les Bénins reprennent aussi cette émission en ligne. Pour le débat de ce jour, nous avons autour de la table Germain Poulier du journal Togo Réveil. Bonjour Germain.
Bonjour Fseni, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
Et puis Francisco Napokoura du journal Tampa Express. Bonjour Francis.
Bonjour Fseni.
Francisco, voilà.
Bonjour Fseni, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Francisco. C'est tout ce qui est franc. Hein. Franco, Francis, Francesco.
D'accord. Bien noté. Nous avons aussi des invités qui vont nous parler de leurs activités. Nous allons les présenter au fur et à mesure. Fouseni Saïbou, je me nomme, gardez le cap pour le débat dans un instant. Nous recevons pour commencer le comité d'organisation de la 4e édition du FEMIVO, Festival de la musique de Vaud. Monsieur Jean-Paul Dimitri Dako, bonjour.
Bonjour, monsieur Fouseni.
Oui, vous êtes le manager général de cet événement, Festival de la musique de Vaud. 4e édition, comment est née cette initiative et quels sont ses objectifs?
L'initiative est née d'une volonté de faire développer la culture togolaise. Les objectifs de FEMIVO, comme le nom l'indique déjà, c'est un festival de la musique de Vaud.
D'accord.
Un festival qui veut réunir les artistes nationaux et internationaux. Nationaux plutôt et internationaux sur une même scène et afin de promouvoir notre culture. Voilà.
D'accord. Alors, comment faites-vous la sélection de ces artistes?
Elle est simple, cette sélection. La scène est grande aujourd'hui et nous cherchons les meilleurs artistes. Le simple fait de les sélectionner motivera d'autres qui sont sur cet élan aussi de mieux travailler afin d'être sur la scène l'année prochaine. Voilà.
Est-ce qu'il faut être natif de Vaud, artiste natif de Vaud pour participer à ce festival?
Merci pour cette question. Pas forcément être l'artiste natif de la préfecture de Vaud avant de profiter de la scène. Étant donné que c'est un événement d'envergure internationale, nous mettons en scène tous les artistes du Togo et les artistes du monde entier.
D'accord. D'accord. FEMIVO a grandi de 4 ans.
Oui.
Est-ce qu'il y a une particularité cette année par rapport aux autres éditions?
4 éditions, 4 scènes aujourd'hui dans la préfecture de Vaud. Et nous aurons une scène à Baroubé qui va débuter le 16 août prochain, c'est-à-dire le mercredi prochain. Et le 17, il y a une scène à Djelkpo.
D'accord.
Le 18, on aura une scène à Haotwe. Et la grande apothéose, c'est le 19 à Vaugan. Donc, la particularité aujourd'hui, c'est de faire 4 scènes dans cette préfecture pour pouvoir mobiliser la jeunesse autour de la culture togolaise.
Voilà. D'accord. Quels seront les artistes invités à ces événements?
Pour les artistes de renom togolais, il y a Almok qui sera de partie. Il y a, comment nous l'appelons? La famille Fanga Music, on parle de Tonix, Ralicia, Dieudonné Willa, Onada, et il aura les humoristes également. Parce que je voudrais préciser quelque chose pour la scène. On a la scène gospel, et cette scène, on verra l'évangéliste Paul Nouzier-Vaud.
D'accord.
Luc Dario, chantre Israël et chantre Abraham. À part ça, on aura la scène variété, où je viens de citer Almok, Fanga Music, Mako le disciple également. Et après, on a une scène humour, où on verra ma famille 228 sur scène à Vaugan.
D'accord.
Voilà.
Est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, des récompenses à l'issue de ce festival?
Oui, il y a, comment je pouvais le dire, une surprise. Je voudrais tout juste inviter toute la population togolaise à venir découvrir cette surprise-là, surtout lors de la potée aux Avogans.
D'accord. Un message particulier aux populations de ces localités qui vont accueillir ces différents concerts.
Oui, le message, il est simple. J'invite juste toute la population du Togo, et particulièrement la population de la préfecture de Vaud, en invitant également les partenaires, je voudrais dire, n'est pas encore tard de se prononcer sur ce grand événement. Et je vous dis aujourd'hui, ce festival fera un bon chemin, et nous y croyons. Et les années à venir, nous verrons des artistes internationaux sur cette scène. Donc, essayez de nous encourager, et on fera un bon boulot pour faire sortir la tête de la culture togolaise. Merci.
D'accord. C'est gratuit ou c'est payant, sans donner le prix?
C'est une scène gratuite.
Gratuite.
Voilà.
D'accord. Merci, monsieur Jean-Paul Dimitri Tako. Je rappelle que vous êtes le manager général de FEMIVO, édition FEMIVO en général.
Oui, oui. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous. Oui, et je voudrais faire une précision.
Oui, allez-y.
Nous avons des t-shirts. Comme particularité de cette année, on voudrait faire déplacer la population de Lomé aussi pour venir vivre ce grand festival. Pour ça, on a mis en vente un t-shirt d'une valeur de 3000 francs,
d'accord,
ce qui donne accès à un ticket bus aller-retour sur Vaugan.
D'accord.
Merci beaucoup.
Message passé.
Ouais.
Merci d'être passé dans cette émission et à très bientôt.
À très très bientôt.
Nous revenons pour la suite de cette émission. Parcourons quelques titres de journaux. Togo réveille titre, le port de Lomé parmi les 5 meilleurs en Afrique. Germain Pouli, bonjour.
Bonjour, Fousseni, on se dit encore bonjour.
Alors, malgré la crise économique mondiale, le port autonome de Lomé semble garder le cap.
Oui, nous avons un port qui est un don de Dieu, si on peut le dire comme ça, parce que on a un port qui est naturellement profond. Et donc, c'est un avantage naturel par rapport aux autres ports sur toute la côte ouest africaine. Et donc, à partir de là, plusieurs opérateurs donc du secteur maritime s'intéresse déjà à ce port pour cette qualité-là. Et les efforts aussi des autorités togolaises pour en faire un outil de développement avec le meilleur partenaire donc sur cette plateforme portuaire aujourd'hui fait que donc nous avons aujourd'hui des installations qui accueillent des navires qui ont du mal à accoster donc sur d'autres ports. Et nous avons un traitement aussi des marchandises qui fait que donc aujourd'hui le Togo s'est positionné définitivement depuis 2 ou 3 ans. Nous sommes dans les 4-5 meilleurs ports donc d'Afrique. On rivalise avec des grands ports de l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, et donc c'est un outil qui aujourd'hui pousse l'économie du Togo. Et nous avons LCT qui, avec ses installations, permet aujourd'hui de faire énormément dans le transportement donc des marchandises qui ne sont pas forcément destinées au Togo, à coste au Togo. Et des bateaux viennent les chercher ici pour les autres ports voisins parce que justement les bateaux qui accostent au port du Togo ne peuvent pas accoster dans les autres ports tout simplement parce que c'est des navires énormes Et il faut donc un port en eau profonde comme le nôtre. Donc les statistiques sont là. Et depuis quelques années, donc, nous figurons dans le top 5 des ports les plus performants.
D'accord. Le port autonome de Lomé parmi les 5 meilleurs en Afrique, selon un classement de la Banque mondiale et ses partenaires. Francisco Napokoura, l'extension du port de Lomé et les réformes fiscales intervenues il y a quelques années au port autonome de Lomé ont sûrement contribué à cette performance, n'est-ce pas?
Bon, on ne peut que féliciter les acteurs des statistiques et tous ceux qui contribuent à cet embellir nous affiche souvent au niveau du port autonome de Lomé. Et pour notre part, nous avons déjà fait beaucoup de dossiers sur le port. Nous avons même dit les conditions dans lesquelles ce port pouvait être encore plus performant, parce que là où nous sommes, la performance du port se limite au vase clos de la zone portuaire. Il a parlé tout à l'heure de transbordement, qui est, disons, l'essentiel au niveau de la LCT. Et le transbordement n'est pas rentable. C'est une activité qu'on vante, mais qui n'est pas rentable pour un pays. C'est lorsque la marchandise traverse le cordon douanier, d'accord, là, toute la chaîne logistique en profite. Et ce port ne peut être, c'est-à-dire ce transbordement ne peut être rentable que si nous avons, par exemple, nous faisons le cabotage. Le cabotage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des bateaux intermédiaires lorsque les marchandises sont déchargées. Donc, par exemple, une société nationale, comme ça avait été le cas de Sotonam, qui maintenant dessert les autres ports à partir du terminal à transbordement. Est-ce que vous voyez? Mais sans ça, c'est que vous déposez une boîte sur un quai et quelqu'un d'autre vient prendre et partir. Donc c'est le manutentionnaire. Et les manutentionnaires, on les connaît en termes d'investissement. Ils prennent des vieilles grues ici et là. Ils viennent, ils réintroduisent dans les immobilisations. Quand vous voyez les rémunérations des expatriés, c'est énormissime. Et qu'est-ce que gagne le pays? Parfois, c'est par rapport, disons, aux réintégrations fiscales que le pays arrive à avoir ce qu'on appelle, disons, des recettes. Est-ce que vous voyez? Mais notre port se porterait mieux si on sort de cet enclos en intégrant le réseau routier. On nous a promis ici que nous allons faire, disons, un dédoublement de la nationale numéro 1. Ça a été un programme de Madame la Première ministre à l'Assemblée nationale. À l'heure où nous sommes, on n'a même pas ajouté un millimètre à cette voie qui devait aboutir à 700 kilomètres. En dehors de ça, il y a le fait des pays de l'Utterland. Le Togo est un pays essentiellement de transit. Ce n'est pas un pays à grande consommation, comme on prend le Nigeria avec sa population
énorme.
Et autres. Mais quand on nous dit que parfois on classe le port du Togo au-dessus du port du Nigeria, je ne sais pas en quel point, quand nous prenons le port autonome de... Vous prenez le côté LCT, c'est du bon travail. Vous prenez le côté Bolloré, c'est du labouyabouyé. C'est des vieilles machines, même la dernière fois. Des rails se sont levés. C'est des grues qui viennent remplacer les portiques. Ce n'est pas normal, puisque ça freine la cadence. Vous allez voir les bateaux sur la mer, ne peut pas vite rentrer pour charger et décharger. Est-ce que vous voyez? Mais le pays de transit, ça veut dire que nous devons tenir compte du Burkina et du Niger. Alors que le Togo est coupé du Niger depuis l'année dernière, le mois de mai. C'est-à-dire que les transactions commerciales, on n'arrive plus à livrer. Le Niger, c'est une forte cadence. On va produire peut-être les statistiques les semaines à venir, comme on revient toujours sur cette rhétorique-là. Et le Burkina, même, vous avez vu tout dernièrement l'attaque au niveau de l'autre côté, entre Bitou et Saint-Kadouri. Mais qu'est-ce qui passe par le port autonome de Lomé et qui donne autant de chiffres qu'on nous vend? Donc, c'est des questions que nous nous posons, à Moscou.
Il
y a des magiciens à la matière.
Bon, j'aime pour les réactions.
Ce n'est pas une question de magie. Bon, c'est que, après, quand j'écoute Francisco, il ne donne aucun chiffre, mais il conteste. Voilà. Vous avez des institutions assez sérieuses, quand même, qui, sur la base des résultats, font ce genre de classement. Quand il dit que c'est pas rentable, bon, je ne sais pas alors à quoi nous sert ce port. S'il n'est pas rentable, ce port est rentable. Quand je dis transportement, à l'intérieur, il parle du Burkina, du Niger. On ne peut pas prendre des marchandises par navire pour aller là-bas. Ce ne peut qu'être que par la route. Maintenant, je disais, le transportement, c'est par rapport aux autres ports de la sous-région. Les gens viennent, ils prennent ici, ils amènent au Bénin, et ils amènent au Ghana, à Téma et tout ça, à Abidjan et tout ça, ils prennent, ça se fait. Parce que, tout simplement, parce qu'il y a des navires qui quittent l'Asie notamment, qui ne pourront accoster nulle part dans la sous-région qu'à Lomé. Moi, j'ai eu la chance d'assister à l'arrivée d'un navire ici, qui a quitté Lomé, qui est allé directement en Afrique du Sud. Parce qu'il ne peut. Il est venu pour les deux. Il vient en Afrique pour accoster à Lomé et en Afrique du Sud. Alors les autres prennent. Donc quand il m'explique, sans donner aucun chiffre, que ce n'est pas rentable, il contredit ceux-là qui ont fait des études dessus et qui donnent des chiffres pour la simple raison qu'ils croient que, comme on vient prendre pour aller ailleurs, ce n'est pas rentable. Il parle du Nigeria. Même tout ce qui rentre au Nigeria n'est pas consommé au Nigeria. Les voitures, les camions qu'on appelle communément les Aki et tout ça, vont chercher des choses au Nigeria, au Ghana, un peu partout. Donc après, il y a plusieurs mécanismes au port qui permettent de rentabiliser ce port-là. C'est des investissements qui sont rentables et qui positionnent le Togo. C'est comme aujourd'hui, on va dire à l'aéroport, bon, on est en train de se classer parmi les 20 meilleurs aéroports de l'Afrique. On voit que les vols se multiplient, les compagnies, ces vols les fonds de Lomé, un hub et tout ça, il dit que c'est pas rentable. Non, je crois que c'est trop facile. Maintenant, j'aurais voulu qu'il fasse des études plus sérieuses, qu'il publie des chiffres pour contredire ces institutions-là, pour dire, mais selon moi, mes recherches, non, mais après, et après bon, quand c'est pas nous qui disons que c'est bon, quand c'est les autres qui disent que ce que nous faisons est bon, apprenons à reconnaître aussi que c'est bon. Il faut qu'on quitte la négation, à croire que bon, nous on ne fait rien de bon. Mais quand quelqu'un nous dit que c'est bon, on dit non, c'est pas bon. Donc il faut qu'on arrête un peu cela. Mais après, c'est des faits qui sont têtus. Et ça, je le dis, je n'ai pas encore vanté les mérites des autorités. D'abord, je dis que naturellement, on avait ce tatou-là dont nous profitons. Après, il y a eu une vision politique, il y a des investissements qui ont été faits, il y a des partenaires qui ont choisi le Togo, qui aussi ne sont pas... Ce sont des gens qui sont dans le business, dans l'économie, qui savent chercher de l'argent. Mais après, bon, nous, journalistes, pas spécialistes, quand on le dit, je dis, bon, j'aurais souhaité peut-être qu'on m'y promet revenir la prochaine fois avec des éléments plus probants et des chiffres. Peut-être on pourra en débattre.
D'accord. Je n'ai pas parlé de rentabilité. Quand on parle de rentabilité, c'est un autre concept.
D'accord.
Il y a beaucoup d'éléments. Attendez. Il y a beaucoup de. J'ai dit, le port autonome serait plus performant si.
C'est quoi la performance?
Attendez.
Vous avez la parole, continuez.
Lui, il n'a que la chance, une fois, de monter sur un bateau.
Je ne suis même pas monté sur le bateau.
Moi, j'ai la possibilité d'aller regarder un bateau, d'accord ?
Voilà.
Moi, j'ai la possibilité de monter sur un bateau. Je peux vous dire tout à l'heure, il suffit de me donner les caractéristiques d'un bateau, je peux vous dire combien rentre dans les caisses d'État, combien... d'accord ? Mais j'ai ça comme matière.
Non, je
ne suis pas théoricien, je n'ai pas... J'ai ça comme matière. Donc, quand vous parlez en tant que vous et journaliste qui n'avez pas du factuel sur le terrain. Moi, je suis... Attendez. Je vous ai dit que j'ai déjà fait un article sur le dossier. Allez chercher cet article et lisez. Ce que vous parlez de chiffres, nous avons fait. D'accord ? Nous avons évoqué des chiffres. Nous avons dit les conditions qui vont amener, n'est-ce pas, le port à être plus... performant. Et aussi, allez interroger les acteurs du secteur. Il y a même le port même de Lomé. Comment se portent les finances du port autonome de Lomé? Je veux... Attendez. Le bilan...
S'il vous plaît, attendez.
Germain, comment se portent les finances du port autonome de Lomé? Quelle est la participation du port autonome de Lomé dans le budget de l'État? Parce que nous avons les recettes fiscales et non fiscales. Nous savons que c'est l'OTR, c'est-à-dire que c'est la recette fiscale qui fait plus de, disons, 70%, n'est-ce pas, du budget togolais. On ne peut pas avoir un port qu'on nous chante, port en eau profonde, un port rentable, et que on a ces chiffres dans le, dans le budget. Donc, et puis, allez interroger les acteurs. Attendez, attendez. Allez interroger les acteurs de la chaîne, sinon de la plateforme portuaire. Vous interrogez les transitaires. Est-ce que aujourd'hui est mieux, est mieux que... Attends, 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 attends. Germain, je vous dis que le port... Quand on parle du port, on ne peut pas prendre un port institution, mais on prend une plateforme, la plateforme portuaire. Tous les acteurs qui interviennent là-dedans. Donc, je vous dis, allez interroger et les transitaires. Allez interroger les maisons consignataires. D'accord ? C'est les principaux. D'accord ? Les manutentionnaires sont essentiellement des étrangers qui sont installés. Allez les interroger, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup... Allez les interroger pour voir est-ce que aujourd'hui est mieux par rapport à hier.
Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'innovations. Il y a plusieurs innovations. Le port n'est plus le port qu'il était avant, quand un barqué était déjà du port, un aguéomé. Le port produisait de l'argent, on dit port. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs services au port. Ça a été modernisé quand même par les transitaires et tout ça. Mais la douane est toujours là, elle fait ses chiffres. Hein? Maintenant, il y a de nouveaux services comme Ségus et tout ça, plusieurs structures. Donc là, le port n'est plus comme avant. L'administration du port ne peut pas être rentable comme avant quand elle gérait tout. Donc je crois que c'est là où il fait la confusion. Donc aujourd'hui, il y a un autre fonctionnement, il y a des innovations et plusieurs services qui font effectivement de l'argent. Là, je suis d'accord avec lui. Mais dire le budget du port, le port n'est plus le port à l'ancienne qu'on connaissait. On dit chaque année, le port rapporte ceci. Non, aujourd'hui, il y a plusieurs. Quand ce que l'OTR récolte au port, on ne dira pas que c'est le port. On met ça dans le bilan de l'OTR. Avant, c'était différent. Donc, d'accord. Je crois que c'est
d'accord. Germain Pouli, maintenant que le port a retrouvé une stabilité, est-ce qu'il n'est pas temps de revoir un peu à la baisse les taxes sur les véhicules pour faciliter leur acquisition hein, au Togolais? Un auditeur faisait cette doléance mercredi dernier sur nos antennes.
Oui, non, je crois qu'à chaque fin d'année, l'OTR essaie de mener une opération qui fait qu'on réduit un peu les prix de dédouanement, espérant que cette année encore, l'OTR permette à ceux qui ont des difficultés pour dédouaner d'aller. Donc, vous avez même ce service-là qui évalue donc les voitures avant le dédouanement. Avant, ça n'existait pas. Et c'est Cotec. Il y a Cotec Nai, Cotec au port, mais je me trompe un peu. Donc, ce que je voulais dire, mais c'est vrai, l'OTR fait un effort, mais après, aujourd'hui, la tendance, je pense, c'est à encourager l'acquisition de nouveaux véhicules. Et dans tous les pays, on essaie de taxer un peu plus les véhicules d'occasion que les véhicules neufs. Malheureusement, bon, pour la majorité qui sont pauvres, on ne peut qu'acheter des véhicules d'occasion, mais il y a cette tendance-là qui est réelle. Et je pense que l'OTR a trouvé la formule, c'est qu'à chaque fin d'année, on essaie quand même de réduire donc les coûts sur le dédouanement et permettre donc une sortie de plusieurs voitures qui sont en souffrance parce que même les propriétaires des parcs ont des difficultés donc pour écouler et pour libérer les voitures et ça se fait, peut-être on pourrait le multiplier, ne pas attendre que toutes les fins d'année pour faire ce cadeau à ceux qui veulent acheter des voitures, mais le faire deux ou trois fois dans l'année.
D'accord. Francisco Napokoura, non, sur ce sujet.
Non, vous savez, par rapport au port, et je crois que Germain toujours dans le temps.
On va plus revenir
dans le temps
sur
ça. De Matusalem, parce que Cotec Na et Cotec ont disparu depuis du port autonome de Lomé. Donc, Germain, écoutez-moi bien. Quand je parle du port, écoutez-moi. J'ai même fait un article, hein, des articles là-dessus, hein, que ce soit Cotec et Cotecna. On fait partie des gens qui avaient écrit, même pour demander à ce que le Ségus qu'il est en train de vanter disparaisse. Parce que, attendez.
Nous n'allons pas les solennités au fond de l'argent.
Le prix des véhicules. Cotecna n'existe plus. Maintenant, la détermination de la valeur des véhicules, c'est devenu encore un autre problème. Nous étions pour le départ de ce Blanco. Maintenant, on l'a remplacé par des Togolais. Aujourd'hui, c'est l'OTR qui s'en charge totalement. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui, nous avons même un article là-dessus, n'est pas est inadmissible parce que les valeurs, on les attribue selon la tête du client et même en prenant des dessous de table, parce que c'est un dossier très, très, très lourd et qu'il faut que le commissaire général, le docteur Philippe Tchodjé, regarde encore ce côté, parce que nous n'avons pas milité pour que Kotec parte et qu'on les remplace par des Togolais qui sont pires. Donc, il faut aller rapidement pour remettre sur le tapis ce logiciel-là qui était utilisé, qui permet à partir du numéro de châssis et autres de déterminer une valeur de la voiture. On n'exclut pas qu'il y ait des favoritismes ici et là, mais quand même, il faut revoir les choses. Les parcs sont pleins. Les parcs sont pleins. Il ne s'agit pas de question de vieux voitures, de vieilles voitures. Allez au Burkina Faso, les voitures, les nouvelles voitures sont plus taxées que des vieilles voitures. Est-ce que vous voyez? Donc, au Togo, on a fait la spécificité d'avantager,
s'il vous plaît.
Germain, d'avantager ceux qui ont encore de l'argent. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là, qui ont les décisions, qui se donnent le favoritisme.
Est-ce que ce n'est pas un souci de préserver l'environnement?
Souci n'est pas seulement togolais. D'accord? Ce souci n'est pas seulement... Je ne sais pas si le Burkina a envie d'encombrer...
Écoutez-moi. Terminez, on sort de ce sujet.
Quand vous prenez les véhicules, aujourd'hui l'État togolais a décidé de favoriser les véhicules hybrides et puis les véhicules neufs, d'accord, soi-disant pour moderniser le parc, d'accord. Et quand vous avez deux déclarations de véhicules ayant fait plus de 5 ans et un véhicule qui a moins de 5 ans, vous voyez que la différence entre les valeurs, c'est parfois jusqu'à 75%, parce que là, la TVA est exonérée pour ce que les gens veulent favoriser. Mais malheureusement, ça ne touche pas directement la masse. C'est là le problème que l'auditeur a posé. D'accord. Donc, il faut rétablir ce qui se faisait en ramenant un logiciel qui permet, à partir du numéro du châssis et d'autres paramètres, de déterminer une valeur pour que tous les Togolais soient pratiquement sur le même pied d'égalité et non de faire les choses selon la tête du
client. Merci à vous deux. Nous sortons de ce sujet. Notre deuxième invité se nomme Seydou Kambia. Il est le chef section éducation des contribuables chargé des affaires du cadastre et de la conservation foncière. Monsieur Seydou Kambia, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour fidèle auditeur de Radio Canal FM.
Avant de vous donner la parole, voyons ce qui est écrit dans la presse ce jour sur les activités de l'OTR. Mobilisation des recettes fiscales, l'OTR fait mieux au cours des trois premiers mois 2023 par rapport à 2022, titre Togo Réveil. Togo Matin écrit « Arnaque, l'OTR invite la population à être davantage vigilante ». Et puis le Canard indépendant qui titre « Société, immatriculation foncière, l'OTR alerte sur les arnaques. Les paiements se font uniquement dans les agences ». Alors voilà ce qui est écrit par la presse à propos de l'OTR, mais c'est sur la recrudescence des cas d'arnaque à la direction foncière et de l'enregistrement DCCFE que nous allons échanger ce matin, M. Kambia. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce que nous avons dit avant vous? L'OTR a été cité dans nos interventions.
Merci beaucoup. Ma réaction à chaud. Je vais plutôt féliciter les deux présentateurs qui ont été très éloquents. Bon, mon observation va simplement par rapport à la taxation des vieux véhicules qu'on dit souvent France au revoir. J'ai cru entendre le collègue sur le plateau indexer l'OTR ou les agents de douane par rapport aux évaluations des vieux véhicules qui se font selon lui à la tête du client. Je vais m'inscrire en faux.
D'accord.
Il n'est pas possible de regarder la tête du client pour lui attribuer une valeur. Dans tous les cas, les gens se présentent. C'est les dossiers qui entrent dans les évaluations. Les individus ne se présentent pas. Le contact physique est réduit au maximum. Alors maintenant, le logiciel dont il parle, ça c'est une innovation que nous voulons faire. En fait, on ne peut pas copier et coller ce que Cotecna faisait. Donc le laboratoire est en cours, mais je vais lui rassurer qu'il y a une base sur laquelle les évaluations se font. Ce n'est pas la tête du client comme il le pense, c'est peut-être le secret professionnel.
D'accord.
On ne peut pas mettre la base de calcul, en tout cas sur la place publique. Et c'est des professionnels qui manipulent cette base. Et au moment venu, ce qui va sortir du laboratoire va être communiqué au public.
D'accord.
Voilà ce que la réaction que je voulais apporter à ce niveau à chaud.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, M. Kambia, revenons à notre sujet. Dites-nous, que fait exactement la direction foncière et de l'enregistrement?
La direction du cadastre de la conservation foncière et de l'enregistrement, en abrégé DCCFE, est une direction, est une l'une des directions de l'OTR qui s'est vu fixer des objectifs et des missions. La première mission fondamentale, c'est la délivrance des titres fonciers au profit des demandeurs. Maintenant, à l'intérieur de cette mission, il y a des sous-missions qui concourent à l'atteinte de cet objectif-là. Et la première sous-mission, c'est la conduite des procédures d'immatriculation. Vous voyez, l'immatriculation, il y a une procédure qu'il faut enclencher, poursuivre et achever. Et cette procédure est conduite par le conservateur de la propriété foncière, qui est nommé à cet effet. Aujourd'hui, il y a 5 conservateurs. Chaque région dispose d'un conservateur indépendant qui conduit sa procédure et aboutit au titre foncier dans toutes les régions.
D'accord.
Et l'autre soumission,
oui.
La direction se charge de communiquer les renseignements. Vous êtes d'accord avec moi que l'archive est très importante dans la vie d'un individu, et voire même d'une administration. Donc toute opération que se passe à la direction du cadastre sont archivées. Et de ce fait, pour des consultations futures, lorsque vous demandez à savoir le titre foncier appartient à qui, ou tel terrain, est-ce que le terrain est dans une situation bonne pour l'acquérir ou pas, nous sommes chargés de vous fournir le renseignement. Également, vous êtes d'accord avec moi que le titre foncier, c'est un document de sécurité foncière, mais aussi c'est un document de spéculation au niveau des affaires, de business. Alors, la meilleure garantie aujourd'hui, c'est le titre foncier. Lorsque vous voulez faire une hypothèque, un emprunt bancaire, la meilleure garantie, c'est le titre foncier. Et de ce fait, lorsqu'il y a une convention entre une institution financière et un individu, le cadastre se charge également d'inscrire ces garanties-là pour sauvegarder, n'est-ce pas, les créances des tiers. Voilà ce que je peux dire en grosso modo, les missions de la DCFE.
D'accord. Alors, parlons des formalités pour l'obtention d'un titre foncier. Depuis quelque temps, nous faisons face à une recrudescence de messages d'arnaques demandant à certaines personnes de rappeler pour le suivi de leur dossier de titre foncier. Qu'en est-il exactement?
Merci beaucoup. Cette antenne nous permet évidemment d'éclaircir le sujet. Ce système d'arnaque est vraiment une gangrène dans tous les secteurs. Vous allez voir la T2E, la CET, et puis voilà la CNSS. Et nous, aujourd'hui, à l'OTR, à travers la délivrance des titres fonciers. En fait, les arnaqueurs profitent de la méconnaissance des principes et des procédures de nos requérants.
D'accord.
Et c'est pour cela que nous sommes là pour éclaircir. À l'OTR, nous n'avons pas un numéro de téléphone, de T-Money ou de Flouz, à partir duquel vous allez transférer de l'argent pour payer vos taxes ou bien vos droits. L'innovation qui a été faite par rapport aux réformes, parce qu'il fallait aller au moins au télépaiement pour éviter le transport des liquidités, qui est un risque fondamental vu la situation sécuritaire par rapport au braquage.
D'accord.
Alors donc l'OTR a procédé à des réformes et à des facilités de paiement. Ça a conduit à adopter les paiements par T-Money et par Flouz, spécialement au niveau du cadastre et de la conservation foncière. Il ne s'agit pas de transférer de l'argent d'un compte T-Money vers un compte T-Money. Il s'agit simplement, lorsque vous déposez votre dossier à la direction du cadastre et qu'on vous remette une fiche de liquidation, comme on l'appelait facture, vous devez vous rendre au cadastre ou au commissariat général.
D'accord.
Nous avons un dispositif qui a été mis en place. On appelle ça une borne de paiement. C'est une tablette Android qui est dédiée. Vous devez manipuler cette tablette-là et entrer les coordonnées de votre liquidation ou bien votre facture pour que votre timonier vous serve comme paiement. Vous éditez votre quittance de paiement et vous partez. Mmh. Il ne s'agit pas de rester à la maison et de transférer de l'argent d'un compte timonier vers un individu pour payer une prestation. L'auteur ne reçoit pas un paiement par timonier à distance.
D'accord.
Vous devez vous présenter et manipuler un outil qui est affecté à cet effet, qu'on appelle borne de paiement, installé au cadastre et au niveau du commissariat général en face de l'ambassade des États-Unis.
D'accord.
Voilà l'éclaircissement que je voulais apporter par
rapport à ça. Est-ce que la DCCF a l'habitude de contacter les usagers par téléphone ou par SMS?
Évidemment, pour aller vite, vous voyez, dans le temps, vous déposez votre dossier à la direction de cadastre, il suffit, il faut que vous veniez aux informations. On ne vous dira rien, mais aujourd'hui, le commissaire général a donné des instructions fermes. Et nous sommes en train de l'appliquer en appelant les concernés pour les expliquer l'évolution du dossier.
D'accord.
Parce que les requérants ont payé pour un service à rendre. Donc nous avons l'obligation de les rassurer, de les contacter périodiquement pour les informer de l'évolution du dossier. Particulièrement, les appels téléphoniques que le cadastre émet, souvent, il s'agit d'informer les requérants de la programmation du bornage contradictoire. Qui est une opération technique. Lorsque vous déposez un dossier, nous devons aller sur le terrain pour vérifier les coordonnées, établir un nouveau plan qui permet d'aller au titre foncier.
D'accord.
Donc, à cette étape-là, le cadastre appelle directement le requérant concerné pour l'informer de la programmation de son bornage contradictoire et de la date à laquelle l'opération va se tenir et l'invite au finish de passer physiquement à la direction, récupérer les documents à cet effet.
D'accord.
C'est les convocations que vous devez signer par votre vendeur, vos limitrophes et vous-même. Il ne s'agit pas de venir avec de l'argent, il ne s'agit pas d'appeler les requérants à envoyer de l'argent en contrepartie. Ce service-là, il est gratuit. Lorsqu'on vous appelle, la personne va décliner ses entités en disant c'est monsieur X de la conservation foncière qui vous appelle et vous informe que votre bornage est prévu pour tel jour et que vous devez vous présenter pour récupérer les convocations gratuitement.
D'accord.
Voilà de ce de quoi il s'agit quand il s'agit d'un appel téléphonique de l'OTR.
D'accord. Francisco Napokura, une question.
Non, mais pour enchérir, c'est que il a dit quelque chose de très
important. Oui, le micro ne marche pas encore. Puis allez-y.
Il a dit quelque chose de très très important.
Toujours pas encore. Bon, en attendant que la solution soit trouvée, Monsieur Kambia, en cas de réception d'un message demandant de rappeler un numéro spécifique. Ou d'envoyer de l'argent sur un numéro, que doivent faire les usagers?
La vigilance doit être la règle. Aujourd'hui, comme on le dit, les faussaires sont dans le laboratoire. Ils anticipent aussi à chaque réforme. Ils essaient de modifier leur modus operandi. J'appelle à la vigilance des requérants. Lorsque vous recevez un message ou un appel qui vous demande déjà d'envoyer de l'argent, la seule réflexion à mener, c'est de dire que c'est de l'arnaque. Parce que l'OTR ne fonctionne pas sur la base des transferts monétaires en contrepartie d'un service rendu. Lorsqu'un requérant reçoit un message qui l'invite à transférer de l'argent ou un appel téléphonique qui lui demande d'envoyer de l'argent, il ne faut pas qu'il s'exécute. Il ne doit pas transférer.
D'accord.
La seule solution pour lui, pour nous arranger nous tous, c'est qu'il faut appeler le 82-80 pour dénoncer et transférer ce message-là à la direction d'anticorruption. Ça nous permet de filer les faussaires pour les mettre hors d'état de nuire.
D'accord.
On ne doit pas s'exécuter lorsqu'il y a une demande de transfert d'argent.
Ok. Francisco Napokura, je crois que les choses sont rentrées dans l'ordre.
Oui, ce qu'il a dit de très important, il faut que les gens cessent de se plaindre pour certaines choses. Aujourd'hui, nous sommes en pleine évolution. Tu sais ce qu'il dit, que nous devons aller dans les services OTR. Peut-être demain on le fera à la maison, comme on achète le visa ou les tests Covid, c'est sur une plateforme depuis la maison ou bien depuis son terminal. Mais quand vous validez la chose, on vous envoie de valider sur votre portable pour que l'argent puisse partir. Donc les gens doivent s'inquiéter. Il ne faut pas envoyer l'argent parce que quelqu'un vous a appelé ou vous a envoyé un message. Donc les gens doivent être vigilants, même dans la pratique même des finances. Quand vous avez déjà envoyé l'argent à quelqu'un, le jour que vous voulez encore réenvoyer, vous l'appelez pour qu'il vous confirme si le compte est toujours est valable.
D'accord.
Mais là où je voudrais poser une, un petit souci hein, par rapport au foncier, c'est que depuis un moment, on a l'impression que la formule hein, de titre foncier est en train de faire de nouveaux propriétaires des terrains. On peut dire même de l'accaparement. La dernière fois, nous avons été saisis par les gens de Paumé, qui étaient en conflit, même à la justice, avec la PIA, la plateforme industrielle de Aditikopé, sur leur parcelle, et tous les jugements leur étaient favorables. Mais à la dernière minute, c'est un monsieur qui pratiquement a fait un titre foncier sur tout l'espace pratiquement de la PIA, qui devient nouveau propriétaire parce que ayant un titre foncier. Heureusement que le titre foncier n'a pas été encore remis, mais quand le maire 1 de Thiévier a écrit au cadastre, le cadastre a répondu avec tous les documents à l'appui que quelqu'un est en phase d'obtenir un titre foncier sur ce terrain. Et ça s'étend hein, dans la zone, vraiment c'est un nouveau souci. Il y a des procédures, il faut passer par la mairie, autre que les gens violent. Par exemple, ce dernier dont nous parlons, nous avons le nom, mais nous ne le donnons pas, a violé des principes, mais en face d'obtenir, disons, un titre foncier au niveau de l'OTR. Donc je dis que cette nouvelle formule, sinon cette façon d'avoir le titre foncier, est en train de déposséder beaucoup de Togolais de leur... Parce qu'on parle de plus de 70 hectares, on parle de 100 hectares, donc c'est vraiment sérieux. Et il faut que les autorités de l'OTR revoient la chose, surtout quand il s'agit de grandes surfaces.
D'accord. Monsieur Cambia.
Merci beaucoup. C'est très important la question que vous venez de soulever. En fait, le droit de propriété est consacré à partir d'une procédure donnée. Et le législateur, à partir du code foncier domanial, a prévu deux voies possibles. J'ai cru entendre M. Napo qui parle de la voie de la mairie. Ce n'est pas la seule voie. Il y a deux voies possibles qui sont consacrées à la voie administrative, qui est celle de passer par un contrat de vente à partir du chef canton, certifié par le maire, avant d'aller à l'enregistrement. Il y a aussi l'autre voie consacrée, c'est la voie notariale, où on peut convoquer son vendeur
auprès du notaire. C'était la voie employée. C'était la voie employée.
Auprès du notaire.
Notarial, oui.
On D'accord. peut faire comparaître son vendeur auprès du notaire qui est un assermenté. C'est un assermenté. Les actes produits par les notaires sont des actes authentiques qui ne souffrent pas de légalité. Jusqu'à ce que une autre situation vienne prouver que le notaire a fait du faux. Et là, il endosse la responsabilité d'avoir trompé l'administration. Donc, quand cela est le cas, quelle que soit la voie par laquelle le requérant serait passé pour avoir son titre foncier, c'est qu'il y a la procédure de publicité foncière qui a été engagée. Un journal officiel a été édité, publié, affiché au niveau des communes, affiché au niveau des mairies, excusez-moi, c'est la même chose, au niveau des préfectures et au tribunal. Pendant plus de 90 jours, il y a eu un borrage contradictoire qui se fait sur le terrain. Si c'est 70 hectares, ça ne part en un seul jour. C'est 3 jours, 4 jours de levée topographique. Pendant tout ce temps-là, le législateur prévoit que celui-là qui n'est pas d'accord par rapport à cette procédure puisse s'opposer. Même verbalement, l'opposition est reçue en attendant que la formalisation de l'opposition soit enregistrée. C'est souvent l'ignorance.
D'accord.
Les requérants ignorent qu'ils peuvent empêcher quelqu'un de faire un titre foncier. Ils ignorent. Il ne s'agit pas de rester chez vous. Pour dire que mais j'ai vu des gens sur le terrain, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut aller, pas par la violence, il faut demander, monsieur, vous faites quoi? Si c'est des gens de cadastre, on vous dit, nous sommes au cadastre, voilà ce qu'on veut faire. On vous donne l'information. Vous n'êtes pas d'accord, vous dites au géomètre, je m'oppose à l'immatriculation, il va noter sur le PV et le dossier va être mis sous scellé en attendant qu'une donation et une solution soit trouvée. Donc voilà là où nous invitons nos populations à aller aussi. Il faut être vigilant.
D'accord.
Ce n'est pas la nuit qu'on fait bornage, c'est le jour.
C'est le jour.
Oui.
D'accord.
Je suis d'accord avec. C'est la deuxième méthode, hein, avec un notaire, un grand notaire du Togo. Mais malheureusement, même sur l'affiche, sur les choses, il y a senti que beaucoup sont morts. C'est-à-dire que même avant avant d'avoir posé cet acte. Ok, maintenant, c'est que vous devez intégrer aussi que aujourd'hui les gens utilisent les moyens, les nouvelles technologies pour faire le bornage. Selon ce que nous avons comme information, que nous sommes en train de vérifier, les gens utiliseraient des drones. Parce qu'il paraît, il y a des surfaces hein, qui sont carrément des marécages, et les gens se demandent comment est-ce que l'on arrive, parce que pour le même propre, il y a des nouveaux accapareurs, il y a beaucoup de d'autres surfaces qui sont intégrées.
Oui, d'accord, oui.
Ce que je veux ajouter, le bornage contradictoire ne peut être fait que par la direction du cadastre.
Okay.
Les drones qui sont utilisés sont des levées topographiques pour en faire le plan parcellaire. À ce niveau, le cadastre n'intervient pas.
D'accord.
Le plan parcellaire qui est fait par un géomètre privé, il peut utiliser toutes les méthodes qu'il veut pour venir faire le dépôt du plan.
D'accord.
Nous, le jour du bornage contradictoire, nous, on se déplace physiquement
pour aller.
Et nos appareils, pour le moment, on n'a pas encore utilisé un drone pour faire une levée topographique pour le bornage.
Merci.
Nous avons le GPS différentiel.
D'accord.
Qui permet de balayer à plus de 25 km. Pour le moment, c'est l'appareil le plus sophistiqué qu'on utilise. Le GPS
différentiel.
Il y a aussi les stations totales qu'on utilise. Et ceci, c'est la présence physique sur le terrain pendant toute l'opération.
Voilà.
Et nous sommes visibles. Voilà. Donc,
d'accord.
Merci.
Au cadastre, on ne fait pas.
D'accord. J'aimerais Pouli, vous avez une question.
Non, c'est sur l'ampleur de ces arnaques-là. Quelles sont les localités dans lesquelles les gens se plaignent beaucoup plus de ces messages-là?
Les gens se plaignent beaucoup plus au niveau de la région maritime et de Grand Lomé. Vous voyez, ça aussi, c'est la masse. Aujourd'hui, c'est le Grand Lomé et la région maritime qu'il y a la plus grande demande possible des titres fonciers. Les régions, pour le moment, ce n'est pas, l'ampleur n'est pas encore à son niveau élevé. Donc, ils se focalisent exactement sur le Grand Lomé et la région maritime. C'est pour cela que nous sommes, on a anticipé rapidement, en commençant par le Grand Lomé et la région maritime pour sensibiliser. Nous irons aussi à l'intérieur parce qu'on ne sait jamais ce qui a commencé, la plaie qui a commencé par la cheville finira par arriver aussi à la jambe.
Est-ce que vous avez pu mettre la main sur
la dernière question,
certains arnaqueurs?
Nous avons, nous-mêmes qui sommes sur le plateau aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup de messages. Le conseil général lui-même
on reçoit.
Il n'est épargné.
On lui dit que le dossier est sur la table du conseil général, alors que le message lui a été adressé en tant que
conseil lui-même.
Vous voyez l'absurdité de ces arnaqueurs. En fait, aujourd'hui, nous sommes en train de traquer ces faussaires. Et c'est pour cela que nous demandons à la population de contribuer en dénonçant. Il ne suffit pas de dire je ne transfère pas de l'argent et puis vous vous taisez. Vous devez dénoncer pour dire j'ai reçu tel message tel jour. 82-80, c'est un numéro vert. Quand vous appelez, ça vous prend zéro franc. Ça nous permet tout simplement de filer les gens là. En fait, c'est des gens qui changent de position en permanence. Lorsqu'ils envoient les messages, ils finissent par encaisser. Le numéro devient injoignable et ils ont des applications selon les techniciens qui permettent de brouiller les pistes. Quand vous les pistez à Saguado tout de suite, en 10 secondes, 10 minutes plus tard, ils ont bougé. Donc, ils sont en permanence
en mouvement.
Donc, nous sommes en train de traquer la faille. Nous aussi, on va trouver la faille un jour.
D'accord.
Et l'erreur sera commise. On mettra la main sur eux.
D'accord.
Nous sommes sur leur trousse.
Merci, monsieur Sidou Kambia. Vous restez avec nous. Les auditeurs auront certainement des questions à vous poser. Alors, nous abordons un autre sujet dans cette émission. Utilisation sans contrôle des pesticides, péril en la demeure, un état togolais muet comme une carpe. C'est un article qu'on retrouve dans Tampa Express ce matin. Francisco Napokura.
Oui, vous savez, nous avons encore un autre tueur lent dans nos assiettes. Et c'est comme si ça n'intéresse personne. Et surtout les autorités en charge. Parce que il y a beaucoup, il y a au niveau du ministère de la, du Travail, il y a un décret qui demande, qui forme une commission pour travailler régulièrement sur le dossier alerté. Au ministère de l'Agriculture, il y a également un comité qui travaille un peu pour l'élimination des pesticides, mais je pense que la chose dépasse ces deux structures et il faut vraiment taper sur la place, sur la table. Quand vous allez dans tous les marchés, vous avez vu les images que nous avons affichées, sont des images prises tout dernièrement. Par exemple, à Kbalimé, vous voyez les étalages des pesticides, tout le monde passe devant. Et quand vous allez dans les marchés de Bassar, surtout les samedis, les jours du marché, ou de Guerenkouka dimanche, ou Bangili jeudi, vous voyez ces produits qui sont étalés à même le sol. Et on les utilise d'abord pour les utilisateurs, c'est un problème, puisque après, ils finissent par un cancer pour la grande partie du temps. Et c'est des petites maladies. Quand ça commence, on soigne, à la fin des comptes, on finit par vendre le foncier, le peu qui reste comme héritage pour la famille. Et après, la personne meurt. Pour les consommateurs que nous sommes, on en consomme. Parfois, vous allez constater, vous mangez à des mains, ou bien vous prenez les lectures, et puis le soir ou quelques heures après, tout le monde fait la diarrhée. Tout n'est pas sorti. Une bonne partie est restée à l'intérieur et qui va nous ronger. Et un jour, on dit mort subite. Et par rapport au sol, à l'écosystème, c'est aussi un grave un problème. Et dans le temps, quand on allait au champ, on voit les criquets par terre, on voit les vermisseaux sortir et on... comment vous l'appelez, les escargots. Mais aujourd'hui, vous allez faire tout votre champ, vous n'allez pas trouver ces espèces. Et aussi, c'est la nappe d'eau que nous consommons qui est aussi polluée. D'accord ? Il y a, disons, danger. Et ça devient, sinon c'est devenu, un phénomène sanitaire et grave auquel il faut répondre. L'OTR ici, normalement même l'OTR est censé aux frontières éviter l'entrée de certains produits, mais je ne pense pas que cela se fait dans les règles de l'art.
D'accord.
Donc voilà la sonnette d'alarme que nous tirons.
D'accord. Si Germain Pouli n'a pas... Vous avez quelque chose à dire sur le sujet, je pense que Tampax fait bien
de tirer la sonnette d'alarme. Il y a une agence nationale pour l'interdiction des armes chimiques, ANIAC, avec en son sein plusieurs départements ministériels, y compris la présidente de la République. Je crois que cette semaine, ils sont en sensibilisation dans la région centrale où ils entretiennent les populations sur l'utilisation des produits chimiques qui sont des armes chimiques en réalité, telles qu'ils entendent expliquer. Quand on les utilise mal, ça tue. Donc ce qui tue est une arme. Donc finalement, ça tue. Et ces pesticides-là, déjà la conservation, ceux qui les vendent même sont en danger. Ceux qui les vendent sont en danger, mais ils ne le savent pas.
Même ceux qui les utilisent également.
Là, c'est plus grave encore, parce qu'ils ouvrent. Même sans les ouvrir, ça représente un danger. Quand on les ouvre, il faut s'habiller déjà, se protéger avant de les utiliser. Les gens ne le font pas. Vous allez dans les champs, vous allez voir comment les paysans utilisent ça. Et après quelques années, 2 ans, 3 ans, il pique une maladie, il meurt brusquement. On ne sait pas. On pense que c'est parce qu'il a un champ florissant qu'on l'a abattu et tout ça. Alors que c'est des produits qui ne sont pas contrôlés. Les origines aussi ne sont pas contrôlées. Il y en a de divers types sur le marché. Il faut que l'autorité réglemente cela et aille voir ce qui se passe effectivement.
D'accord. En tout cas, INADES Formation fait un travail colossal sur le terrain. Cette ONG tire la sonnette d'alarme tout le temps.
Oui, même les Amis de la Terre. L'ONG Les Amis de la Terre l'a fait tout dernièrement.
Effectivement.
Et puis, je veux vous dire, il y a un qu'on appelle, condem. Mais vous imaginez quand vous éparpillez ça souvent autour d'une concession. Ou bien vous prenez un bloc, même à béton, vous l'aspergez dessus, au bout d'un an, ça s'effrite comme de la craie.
C'est vraiment un danger.
C'est un danger réel.
Bon, il y a quelque chose d'important, comme je vous l'ai dit, par rapport aux légumes, aux feuilles qu'on consomme. Généralement, quand on va au marché, on veut acheter les légumes, les feuilles qui sont bien propres, lisses, les insectes n'ont pas attaqué. On croit que c'est le meilleur, alors qu'on devrait plutôt ne pas toucher à ça parce que Là où les insectes ne vont pas, c'est parce qu'il y a des produits chimiques qui les repoussent. Et donc, ce n'est pas bon pour l'homme. Donc, habituellement, ce fût est attaqué par les insectes.
D'accord.
Alors qu'on devrait plutôt aller vers là parce que c'est là où il n'y a pas les traces de pesticides.
D'accord. Alors, rapidement, nous avons quelques minutes. Suite du feuilleton coup d'État au Niger, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis hier à Abuja au Nigeria en sommet extraordinaire au sujet de ce pays du Sahel, dirigé par depuis le 26 juillet dernier par un régime militaire. L'information essentielle à retenir de ce sommet, la conférence des chefs d'État valide le projet d'intervention militaire au Niger, dont l'objectif est le retour à l'ordre constitutionnel et la libération du président Mohamed Bazoum. Et pour ce faire, les chefs d'État ordonnent l'activation immédiate de la force de réserve de la CEDEAO avec tous ses éléments. Au même moment, l'organisation souligne son engagement permanent en faveur du rétablissement de l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques. Alors, Germain Pouliet, vu l'évolution des opinions après l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO, certains pensaient que la menace d'une intervention militaire au Niger n'était plus une option. Mais surprise, hier, les chefs d'État ont remis cela sur le tapis, rapidement.
Non, ce n'est pas une surprise. Je crois que dans plusieurs cas, la CEDEAO met en jeu l'intervention militaire. On a vu en Gambie, quand Yahya Jammeh ne voulait pas quitter, on a mis en branle une armée pour le déloger. On a vu, même dans le cas du Togo, la CEDEAO avait aussi menacé en 2005. D'intervenir militairement. Et donc, au Niger, les autorités n'ont pas coopéré en ne recevant pas déjà la mission de la CEDEAO. Elles poussent la CEDEAO à avancer, même si ça va rester une solution très difficile à appliquer. La CEDEAO est obligée de mettre cette pression-là en gardant toujours la porte du dialogue toujours ouverte, avec l'espoir cette fois-ci qu'en voyant les militaires aux portes de Niamey, les militaires qui ont pris le pouvoir fassent l'effort donc de faire jouer les règles démocratiques et la constitution autrement après. C'est que c'est un risque pour tous les pays. Partout, les militaires seront tentés d'arriver au pouvoir par des coups d'État.
D'accord. Francisco Napokoura.
Oui, bon, c'est déplorable qu'on en arrive là. Mais bon, cette force, justement, comme une force de réserve, c'est comme les armées de réserve. Je pense que cette force est créée pour au cas où les militaires cédaient et pour aller sécuriser Bazoum et son pouvoir. Parce que je me demande comment, si aujourd'hui on sort Bazoum, on le dépose autour du grand marché de Niamey, ce qu'il va devenir, ou même si on le laisse à la présidence, avec qui il va collaborer. Je crois qu'il faut avancer. Il faut avancer. Les gens, ils ont déjà nommé un premier ministre. Un gouvernement est en train de sortir. Et il faut les accompagner comme ils l'ont fait pour le Tchad, la Guinée, le Mali et le Burkina. C'est les inconséquences de tout ce que la CEDEAO même a semé pendant des années. Et voilà.
D'accord. Jamel Pouli.
Bon, oui, je crois que je pense quand même qu'il doit faire l'effort déjà de donner des signaux. Il faut une transition. Le retour à l'ordre constitutionnel, se faire revenir Bazoum, ça va être assez compliqué. Et quand vous écoutez les présidents hier, ils ont quand même entendu une perche aux militaires en proposant déjà, au cas où Bazoum revenait, de garantir peut-être une sorte d'amnistie donc, à ces militaires-là. Donc c'est une porte que la CEDEAO ouvre. Mais ça va être difficile, connaissant un peu les militaires, et surtout dans les trois autres pays où ils ont réussi à s'accrocher. Ceux du Niger aussi vont rester dans cette même droite ligne. Sauf que le cas nigérien est un défi important pour la CEDEAO. Parce que s'il n'est pas réglé, tous les autres présidents risquent de partir par des coups d'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, géographiquement, vous voyez que plus de la moitié de l'Afrique de l'Ouest est dirigée par les militaires. Et s'ils n'arrêtent pas ce coup d'État, c'est pas exclu que d'ici 5-6 ans, on ne voit que des militaires à la tête de nos États, et ça serait un retour aux années d'après les indépendances où les militaires venaient passer 15 ans, 20 ans, 30 ans pour certains, un peu plus.
D'accord. Alors Francisco Napokoura, est-ce qu'au même moment la CEDEAO ne risque pas de se disloquer parce que certains pays commencent par menacer de quitter la CEDEAO?
Ben justement, même il y a des nouveaux qui veulent arriver comme la Mauritanie. Disons, la CEDEAO, en fait, ces présidents réunis, c'est un panier à crabes. Chacun tire le drap de son côté, sauf peut-être Ouattara, qui, disons, veut défoncer toutes les portes. Mais ça doit commencer par lui, à lui de dire que, par exemple, pour le prochain, la prochaine élection, je n'irai plus. Okay, ça, qu'il faut que ça soit sincère. Et que la CEDEAO, le protocole additionnel qu'ils étaient en passe de voter, et au Ghana, qui limitait un mandat à deux, il n'y avait que le Togo et la Gambie qui étaient contre. À l'époque, s'ils avaient exclu le Togo et la Gambie, je crois que ça aurait été une force pour la CEDEAO. Donc aujourd'hui, ça commence. Oui, il y a des normes. Oui, pour la plupart des coups d'État, c'est cette question de limitation et aussi la démocratie de façade que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire qu'on fraude les élections, on dit qu'on est en démocratie, quelqu'un passe son dauphin, on dit qu'on est en démocratie. Il faut finir avec ça. Ça aussi c'est la continuité, voilà, la continuité d'un régime.
Merci à vous tous, merci. Nous marquons une pause commerciale et on revient.
93.5 Canal FM.
Nous revenons pour la suite de cette émission. Les auditeurs se bousculent en ligne. Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour au plateau, aux invités.
Bonjour, c'est monsieur?
C'est Komi.
Monsieur Komi, on vous écoute.
S'il vous plaît, l'invité de l'OTL est là?
Il est là.
Ok. Vous avez dit tout à l'heure que les prix ne suffisent pas à la tête du client, que cela peut se réserver à une cuisine interne ou bien au secret professionnel de dévoiler ce qui se fait. Mais moi, j'aimerais que vous nous expliquiez comment une douane dans l'ancien système qui coûte, par exemple, 800 000 devient 1 100 000 dans le nouveau système pour nos véhicules basiques. Au revoir, Europe, quoi. Je veux nommer, par exemple, les Mazda, les Opel. Expliquez-nous techniquement comment une douane peut évoluer de 800 000 dans l'ancien système à 1 100 000 dans votre nouveau système.
D'accord.
Secondo, pour lui toujours, quand est-ce que vous allez arrêter ce que moi j'appelle l'escroquerie de la TVM? Je m'explique. La TVM est perçue pour l'entretien routier. L'axe que j'ai utilisé la dernière fois, c'est l'axe Thiévier en allant vers le nord. Et quand vous voyez le péage, il y a des milliers de voitures qui passent par jour. Et ces milliers de voitures payent le péage, et ce péage sont construits pour l'entretien routier. Mais dites-moi, comment se trouve l'état de cette voie en question quand vous rentrez dans la ville de Thiévier jusqu'à un certain niveau? Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter l'escroquerie de la TVM?
D'accord. Merci, M. Komi. Allô? Allô? Ah, je crois qu'il est parti. Allô?
Allô? Ouais, allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Nous allons bien.
C'est l'évangéliste Ngord.
D'accord, on vous écoute.
Bon, j'ai un petit passer par l'étude déclarant en douane un appel communément transitaire. Mais maintenant, je vais passer à ce niveau pour faire un plaidoyer. Le monsieur de l'OTL qui avait un niveau. Monsieur Pouli disait tout à l'heure qu'il arrive des fois, toutes les années, la douane cherche de diminuer, surtout pour sur les marchandises, surtout pour les gens qui ont appelé ça abattement de semis. Je voudrais vous dire, nous sommes tous des problèmes, que ce problème d'abattement là, c'est accepté. Chaque jour, tu vis la même chose. Vous venez payer un véhicule où on dit un abattement. La galerie, il le dit, jusqu'à ce que les 27% ont diminué, la taxe devient normale. Sinon, c'est pour dire que quand on fait des abattements, on ne diminue pas la douane. Bon, disons, nous sommes tous des Togolais, il faut continuer la vérité. Et moi, je fais l'évangéliste, je ne mens pas. Je suis la malogie. Vous voyez ce que je vous dis. Et que tous les Togolais ont besoin. Les Togolais ont besoin de manger. Les Togolais ne demandent rien ou les gouvernements, ils quand même bien les entretenir. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les misères et là, ça ne fait pas passer aujourd'hui la CDO en train de s'amuser à bouger là-bas.
D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bref dans vos interventions. Allô? Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Gérard.
Monsieur Gérard.
Oui.
Vous êtes en ligne, en direct.
Oui, je rappelle que ce que fait la CDAO, bon, à mon humble avis, elle n'ira même pas tirer là-bas. C'est toute une pression. Ceux qui soutiennent cette intervention, c'est parce qu'ils ont peur. Hein, comme bon, pour leur protéger dans certains pays, qu'on va leur faire les coups d'État. Vous savez, c'est Ouattara qui active tout. Parce que lui, il se dit chaque fois après, lui, c'est le déluge. Il veut que, bon, il est déjà, il tend vers, il est au soir de sa vie. Il veut que maintenant, les autres ne vivent plus. C'est pourquoi il est dur dans ça. Ce que moi, j'aimerais dire à notre président, nous avons suffisamment perdu de compatriotes dans la lutte contre les terroristes. Qu'ils n'envoient pas nos frères togolais dans cette affaire. Qu'ils préservent la vie de nos frères togolais. Nous avons suffisamment de veuves, nous ne voulons plus de veuves. Que les togolais restent chez nous ici. Si quelqu'un veut aller tirer, Ouattara et puis le Sénégal et puis le Bénin n'ont qu'à aller tirer. Nous voulons que nos togolais restent avec nous.
D'accord. Merci, M. Girard. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Allô?
Allô,
oui, bonjour, on vous écoute.
Bonjour.
Bonjour. Allez-y, Mohamed. Vous êtes en direct.
Mohamed.
Allô?
Mohamed.
Oui, ok, on vous écoute.
Je voulais demander à M. Cambier. Nous qui avons des maisons personnelles. Et on parle de titre foncier. Chaque fois, les gens circulent du titre foncier. J'ai construit ma maison, ça fait 14 ans. Et j'ai fait dans la même année que j'ai intégré ma maison. Mais j'ai les trois enfants récemment qu'ils ont éduqué les trois enfants. J'avais fait, on a éduqué, ils ont fait ça, et j'ai encore fait. Et on a dit que si ça fait 3 ans, ça va être fini. Comment on va faire maintenant? Moi, je n'ai plus d'argent. Je suis de ABC. ABC TV.
D'accord. Merci beaucoup. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour. C'est oui, monsieur? Bonjour.
C'est monsieur Herman.
Ok, on vous écoute.
J'appelle le monsieur de Canada, est toujours avec vous?
Oui, il est là.
Ma soeur a un souci avec ils ont son ex-mari. Ils ont acheté le terrain ensemble, donc on leur a fait un reçu global. Maintenant, lui, comme ils ne sont plus ensemble, lui est allé, il a commencé les démarches de titre foncier, sans céder la part de ma sœur. Maintenant, je voudrais savoir si lors du bonheur contradictoire, ma sœur s'oppose, quelle sera la procédure pour qu'elle entre dans la possession de sa parcelle.
D'accord. Vous aurez la réponse tout à l'heure. Allô?
Allô, Canal
oui,
Saint.
Oui, bonjour.
Bonjour, Canal Saint.
Oui, c'est monsieur?
Allô?
Oui, diminuez le volume de votre poste récepteur. Diminuez le volume de votre poste récepteur.
Ah, j'arrive.
Allô?
Allô?
Oui, on vous écoute. Allez-y rapidement. Allez-y rapidement.
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Vincent.
Oui.
J'appelle de ce côté.
D'accord, on vous écoute.
D'accord, j'arrive.
Bon, nous, en attendant que Monsieur Vincent revienne, nous allons prendre un autre auditeur. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Monsieur?
C'est Monsieur Efoué.
Monsieur Efoué.
Oui.
Vous êtes en direct.
Allô?
Vous êtes en direct.
Ok. J'aimerais également être rassuré vraiment que ce que M. Cambia a dit par rapport quand on doit programmer un bon contradictoire, qu'on joint les gens, et que s'il y a même un blocus, tout ça, là, on informe les gens. Moi, je me dis que c'est faux. La preuve, moi, j'ai fait un dossier depuis, ça fera presque 2 ans. On ne m'a jamais programmé pour le bonheur contradictoire, alors que j'ai déjà reçu le journal officiel depuis. Et maintenant, et par mes renseignements, tout ça, là, j'arrive à avoir la programmation par rapport au bonheur contradictoire. Et mon numéro de réquisition, les numéros qui viennent après même mon numéro de réquisition, on programme leur bonheur contradictoire et moi, on ne me programme jamais. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça?
D'accord. Il va vous répondre.
Quand on fait des réformes, il faut que les services également appliquent ces réformes. Ce n'est pas bien du tout.
D'accord. Il va vous répondre tout à l'heure. Allô?
Allô?
Oui,
allô?
Oui, bonjour.
Monsieur Lucafou.
Allez-y, on vous écoute. Allô?
Je suis un représentant de Cagas. Pourquoi les titres fonciers anciens comme nous ne sont pas sur les sites du Togo, c'est le site web, Togo Gouv, etc. Et qu'il faut 100 000 francs pour identifier les titres fonciers anciens d'un parent, mais qu'on ne retrouve pas, ou bien que quelqu'un a volé pour faire du tout. Parce que 100 000, c'est plus pour les pauvres. On doit dire des vieux grands frères qui sont venus parler de tout ça. La deuxième inquiétude par rapport au Niger.
Oui, rapidement.
Nous savons que les pays africains sont gouvernés d'une manière minoritaire. Ce n'est pas une majorité du peuple qui a voté. Cette démocratie représentative, tout ça là, c'est un revoir.
D'accord, merci à vous.
Je rejoins le propos du président Faure qui disait que c'est une minorité qui gère les biens. Donc, vous voulez bien le dire, pour que de laisser les Nigériens gérer leur pays jusqu'à ce que l'Afrique trouve sa vraie démocratie.
D'accord. Merci à vous. Allô?
Allô?
Le dernier auditeur, on vous écoute.
Oui, c'est Nathéma.
D'accord, allez-y.
Oui, bonjour, Canada FM.
Bonjour.
Et moi, je voudrais dire ce que vous avez parlé du port, tout ça là. Sincèrement, la population togolaise, on souffre trop. Nous souffrons. Au moins, même si quelqu'un a de l'argent pour payer un véhicule, hein, au moins, tu payes le véhicule et la douane va aller jusqu'à 1 million, tout ça là. C'est trop cher. Et maintenant, problème des titres fonciers. Ces titres fonciers, pourquoi ça traîne? C'est un document, c'est vrai que c'est capital. C'est comme c'est les nationalités qu'on fait. Donc, il faut que, au moins, comme le président, l'autre a dit, il faut que ça soit ordonné. Il faut que ça soit ordonné et que, au moins, il faut que ça soit rapide. Ok, bonne émission.
D'accord, merci à vous. C'était donc le dernier auditeur de ce jour. Monsieur Kambia, vous avez été. Enfin, l'essentiel des questions vous sont adressées.
Merci beaucoup. J'ai constaté que l'émission est orientée vers le CADAS, je suis d'accord avec vous. L'OTR, tout de même, est une administration.
Et puis ça veut dire que c'est réellement un problème pour les Togolais.
C'est réellement une préoccupation.
Une préoccupation majeure. Dirais. Voilà.
L'OTR s'efforce d'ici là pour être en phase. Bon, monsieur Komi qui dénonçait le fait que la valeur en douane. Le montant qui était payable à 800 000 aujourd'hui est passé de 800 000 à 1 100 000 entre l'ancien système et le nouveau système. Bon, je dirais que pour le moment, il n'y a pas encore un nouveau système. L'ancien système dont il parle, c'est le système Kotekna. C'est l'ancien système, ça. Le nouveau système n'est pas encore disponible. Aujourd'hui, c'est une base de données qui est en train d'être exploitée. Et nous prions que la commission finisse rapidement les travaux pour mettre en place un nouveau système. Cette variation, à mon avis, peut être expliquée par peut-être les frais connexes. Aujourd'hui, vous avez payé 800 000 dans le temps. Peut-être aujourd'hui, il y a l'Interpol, il y a d'autres frais qui sont ajoutés Et puis ça a passé de 800 000 à 1 100 000. Mmh. Tous les frais ne sont pas des frais de douane. Lorsque vous regardez l'immatriculation d'un véhicule, tous les frais que les transiteurs payent ou bien les acheteurs payent ne sont pas des droits de douane. Mmh. Droits de douane sont à isoler par rapport aux autres frais, les frais de parc, les frais d'enlèvement et tout ça. Ce n'est pas des frais de douane déterminés par notre administration. Vous voyez, cette variation, à mon avis, s'explique par les frais connexes qui se sont en tout cas greffés là-dessus. Ce n'est pas que l'ancien système était meilleur qu'un nouveau système qui vient augmenter les frais.
D'accord.
À mon avis, c'est la réponse qu'il voulait lui apporter.
D'accord.
Ensuite, par rapport à la TVM,
oui.
Notre auditeur a raison. Il a exagéré tout de même en parlant d'escroquerie. Mmh. Ce n'est pas une escroquerie. En fait, la TVM est une taxe qui est connue dans tous les pays au monde. La destination, c'est l'entretien routier. Mais il faut aussi dire que c'est une action politique, c'est une politique économique de chaque pays. L'entretien routier, il y a un service qui est dédié à cette activité. Il y a une planification qui est faite, à mon avis, ça doit être fait comme ça. Une planification est faite des tronçons les plus urgents à aller progressivement. Mmh. On ne peut pas embrasser tous les tronçons aujourd'hui et arranger tout au même moment.
D'accord.
Certainement que ils sont en train d'arranger ailleurs, mais on voit aussi que par là, il y a un problème. Donc, à mon avis, c'est ça. Nous, à l'OTR, notre objectif, c'est de collecter. Nous collectons et nous versons dans une cagnotte. La gestion n'incombe pas l'OTR. C'est ça le problème.
D'accord.
Nous collectons les droits qui sont vraiment prévus par les TES.
D'accord.
Les taxes et les droits sont prévus par les TES. Leur utilisation, leur orientation relève d'une autre politique que l'administration qui est chargée de piloter ces fonds s'est établie. Mmh. Mais nous
D'accord.
sommes rassurés que ça doit aller, en tout cas ça va aller de l'avant. Mmh. Les autorités nous écoutent.
D'accord.
Ceux qui sont chargés de pilotage de ces fonds, ils nous écoutent et ils prendront les décisions importantes.
D'accord, nous sommes talonnés par le temps. On va survoler rapidement.
On survole rapidement pour arriver au niveau des titres fonciers. Je crois que notre ami parlait de maison personnelle quand ça fait 14 ans. Il y a un trois tampons qu'on dit dans 3 ans, ça sera expiré. Je dis que c'est faux. Aucun texte aujourd'hui n'a dit que 3 tampons dans 3 ans, dans 2 ans, va expirer. 3 tampons reste toujours un document administratif qui est accepté à la direction de cadastre pour la procédure d'immatriculation. Néanmoins, 3 tampons, ce n'est pas un droit de propriété. J'invite notre parent qui vient de quitter la ligne d'introduire rapidement son dossier pour immatriculation. Les frais sont réduits. Aujourd'hui, c'est 1,5%. On n'est plus à 9% ou à 8% il y a 4 ans, il y a 5 ans. Mmh. 1,5% de la valeur vénale, votre titre foncier, vous devez l'obtenir. Donc, ne gardez pas les 3 tampons, malgré que ça ne s'expire pas. Aucun texte n'a dit que 3 tampons seraient expirés dans 2 ans, dans 3 ans.
D'accord.
Mais néanmoins, allez-y à l'immatriculation pour être à l'abri, n'est-ce pas, de tout problème foncier.
D'accord.
Et également, un autre auditeur parlait de la procédure de Bornay contradictoire, la programmation. Il disait que ce n'est pas vrai qu'on appelle les gens. Je lui dis que c'est vrai, nous appelons. C'est ceux-là qui sont programmés qu'on appelle. Celui qui n'a pas été programmé, on ne l'appelle pas. On l'appelle pour l'informer que c'est programmé. Et non, on l'appelle pour l'informer que ça sera programmé. Alors, l'ordre dans lequel il souhaiterait que les programmations se fassent, il peut arriver, et ça arrive souvent dans tous les cas, il peut arriver que 2 ou 3 dossiers, certainement c'est une urgence qui est signalée. Lui-même qui est au bout du fil, c'est parce qu'il est passé par... Si c'est inadmissible que quelqu'un puisse demander une diligence par rapport à une urgence qu'il a, il ne serait pas allé demander qu'on puisse le servir. Mais ce n'est pas la norme. La norme, c'est que les dossiers qui sont les premiers entrés sont programmés aussi premièrement. C'est ça qui est la norme.
D'accord.
C'est la norme que nous adoptons au cadastre. Le reste, les 2 ou 3 dossiers qui sont glissés, c'est une exception. Et ça s'explique aussi. L'homme peut demander une faveur
D'accord.
due à une difficulté qu'il veut résoudre. Donc voilà ce que je peux dire à notre ami. De garder patience. Nous sommes aussi en pleine réforme. Bientôt, on ira vers le titre foncier numérique. Nous sommes très loin déjà. Vous allez voir aujourd'hui que tout est digital. Les SMS sont reçus pour annoncer les numéros de réquisition. Le journal officiel se trouve en ligne aussi, c'est numérisé. Donc nous allons vers un titre foncier numérique qui va vraiment clore le débat sur les délais d'obtention des titres fonciers.
D'accord.
Monsieur Anani, notre ami qui parlait de sa grande sœur ou sa tante qui est en difficulté avec son mari et qui ont fait un reçu global. Je crois bien qu'il faut d'abord passer par le règlement à l'amiable. Si vous êtes séparés et que monsieur a introduit une immatriculation, il suffit que vous entendiez, vous faites un acte notarié qui dit qu'à la fin de l'immatriculation, madame va morceler une partie qui lui revient. Je crois que le problème ne se posera pas. C'est lorsque peut-être monsieur ne veut pas, il veut s'accaparer de tout, que madame pourra faire une opposition. L'opposition reste l'exception. Je lui propose plutôt d'approcher son ex-mari pour négocier le partage à l'amiable et qu'un acte soit établi qu'à la fin de l'immatriculation, elle puisse morceler la partie qui va lui revenir.
D'accord.
Voilà ce que je pouvais dire à notre ami.
Vous avez épuisé toutes les questions, je crois.
Oui, je crois que toutes les questions sont épuisées.
D'accord. D'accord. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Francisco Napokoura.
Oui, nous invitons
les lecteurs à chercher le nouveau numéro de Tampa Express, le numéro 40 de Tampa Express. On a traité beaucoup d'articles. On a traité Akpema, le rite traditionnel de la jeune fille en pays kabyère. Nous avons traité le soja, comme un catalyseur, avec, disons, une analyse comparative entre la préfecture de Bassa et la préfecture de Dankben. Il y a aussi un conte en bassar, c'est-à-dire on l'a fait en français et à côté en langue Ncham, d'accord. Il y a les pesticides, comme vous l'avez dit, et puis d'autres articles. Il y a les indignés de la politique des grands travaux de Florian Singbe. Donc nous avons fait
beaucoup d'articles intéressants
voilà. À lire au numéro 40 de Tampa Express. C'est aussi sur le site internet tampaexpress.net.
D'accord, puisque vous avez le micro, votre carton.
Mon carton spécial, c'est au comité d'organisation de la fête de Pontre en Pays Bassa, puisque de Pontre, c'est le 9 septembre prochain. Un carton jaune, parce qu'ils sont en train de tout faire au détriment des activités économiques, des opérateurs économiques du milieu.
D'accord.
Et par exemple, ils sont en train de faire amener un vendeur ambulant des boissons, alors qu'il y a des boutiques à Bassa qui payent des impôts, d'accord, et qui payent des taxes à la commune,
d'accord.
Mais on est en train de les détruire au profit
carton
des
jaune.
Autres. Carton jaune. Et ça deviendra rouge la prochaine fois.
D'accord.
Si ça continue.
Merci. Germain Pouli.
Bon, c'est un carton vert que je lance au ministère de la Sécurité, surtout à ses agents. Ils sont dans les feux, au niveau des feux tricolores pour opération feux tricolores.
D'accord.
Pour la sensibilisation qui a lieu en ce moment. Je pense que c'est une activité qui va contribuer à mieux conscientiser les usagers de la route.
D'accord. Merci Germain Pouli du journal Togo Réveil, Francisco Napokoura du journal Tampa Express. Monsieur Sédou Kambia, il est le chef section éducation des contribuables chargé des affaires du cadastre et de la conservation foncière. Merci Monsieur Sédou Kambia d'être passé dans cette émission.
Merci beaucoup. J'invite encore les requérants à ne pas transférer de l'argent d'un compte imoni vers un compte imoni. C'est de l'arnaque.
D'accord. Merci beaucoup. À la technique, il y avait Michel Tomega, mise en ligne Géraud Akoucha. Je suis Fousseni Saïbou. À très bientôt.